Les premiers ministres des différentes provinces du Canada se sont rencontrés. On s'est assis avec Justin Trudeau. On a un plan?
Ouais.
Nous, on ne connaît pas ce plan-là. Mais on a un plan! Les détails, on le sait pas! La province qui va pas faire partie de ce plan-là, c'est l'Alberta. Daniel Smith, la première ministre, qui a décidé « Non, nous autres, on n'embarque pas dans la coalition des provinces. »
Oui, pas d'accord avec le fait qu'on veut justement réduire la capacité énergétique qu'on envoie aux États-Unis ou même la taxer. Alors, Daniel Smith a pris ses jambes, elle s'est rendue aux États-Unis, est allée rencontrer Donald Trump toute seule. Puis hier, elle a dit à tous les premiers ministres des provinces et aux premiers ministres du Canada, « Oubliez ça, votre entente, oubliez ça. Ce que vous voulez faire, moi, j'embarque pas. »
Fut un temps que lorsqu'on utilisait la menace du pétrole, lorsqu'on jasait pétrole canadien, on avait le gros bout du bâton. Est-ce que c'est la même réalité de façon économique en 2025? On va jaser de tout ça avec Gabriel Giguère, qui est analyste politique pour l'Institut économique de Montréal. Il est au bout du fil. Gabriel, bon matin.
Bon matin à vous.
Merci d'être là, Gabriel. Toujours un plaisir.
Toujours un plaisir partagé.
Hey Gabriel, commençons avec la question que je viens de poser. Est-ce que c'est la même réalité en 2025 pour le Canada lorsqu'on utilise la menace du pétrole? Est-ce qu'on a encore, tu sais, les temps ont changé, est-ce qu'on a encore le gros bout du bâton?
Bien, écoutez, quand on regarde sur le plan économique, là, les exportations aux États-Unis, c'est quand même de pétrole et de gaz. C'est quand même 25 % de l'ensemble des exportations canadiennes. Okay. La majorité de ces exportations viennent de l'Alberta, bien entendu, et ça a un poids économique important, là. C'est très intégré comme chaîne, là, notamment avec la raffinerie aux États-Unis. Donc, il y a une réelle importance du secteur énergétique et plus précisément du pétrole et du gaz. Maintenant, est-ce que Donald Trump va intégrer ça dans son calcul? Ça, c'est une autre question, on le sait, là. Mais tout à fait, il reste qu'il y a une très, très grande importance parce que ça représente aussi au Canada 7,7 % de notre PIB, là. Mmh. C'est un secteur très, très, très important.
Donc, c'est pour la raison du pétrole que Daniel Smith et l'Alberta ne veulent pas faire partie de ce plan qu'on ne connaît pas encore, là.
C'est exactement ça. Puis c'est ça, hein. C'est un peu spécial. Hier, on avait François Legault avec Patrice Roy sur la chaîne de Radio-Canada. Puis là, on disait, on a notre plan, on le connaît. Mais vous le savez, on le dira pas. Mais on a un plan. On dit, bon, c'est quoi le plan? Maintenant, quand on regarde cette dynamique-là, puis Daniel Smith a été très clair sur les réseaux sociaux en disant, moi, c'est pas vrai que je vais arrêter d'envoyer mon pétrole, puis c'est pas vrai qu'il va être tarifé. Après ça, c'est un petit peu facile pour des premiers ministres comme le premier ministre Legault, le premier ministre encore Doug Ford, eux qui exportent pas nécessairement de pétrole et de gaz, en fait, pas du tout, vont dire, ben écoutez, ça, là, on va mettre des tarifs là-dessus, c'est une bonne affaire. C'est bien sûr que si mon voisin, là, il a un objet que je peux pas avoir, puis ben lui, on va le donner cet objet-là, il n'y a pas de problème. T'sais, moi, ça m'affecte pas trop. C'est un petit peu facile. La réalité, c'est que c'est sûr que si Daniel Smith est la voix, c'est le cœur de son économie, c'est des emplois qui sont extrêmement bien rémunérés, là. C'est plus de deux fois la rémunération moyenne du secteur gazier et pétrolier. Comme c'est le cœur de son économie, ben je peux tout à fait comprendre Daniel Smith de dire, ben attendez un petit peu, là, je pense qu'on va se calmer, puis on va bien évaluer les choses parce que c'est pas vrai que l'Alberta va rentrer dans les grandes turbulences économiques. Il faut quand même se rappeler que les exportations d'électricité ont été ouvertes là, à réduire par François Legault. Quand on pense à ça, là, c'est à peu près 2,3 milliards de dollars d'exportation. Puis aux États-Unis, c'est à peu près 1,8 milliards en 2023. Quand on regarde du côté du pétrole et du gaz canadien, en 2023, on est plus aux alentours de 160 milliards, là, plus ou moins 10 milliards. C'est, l'ordre de grandeur, là, c'est beaucoup plus que 50 fois plus important, là. Donc, faut quand même se dire que c'est normal que l'Alberta se dise, oh, un instant, on va s'assurer quand même d'avoir épluché toutes les autres mesures parce que c'est pas vrai que je vais perdre des centaines de milliers d'emplois, là, ou à tout le moins des dizaines de milliers.
Gabriel, comment va l'exploitation puis l'exportation du pétrole au Canada? C'est encore une force parce qu'on parle de plus en plus d'électrification, notamment des véhicules, la fameuse cible 2035. Donc, est-ce qu'on a bien préparé la relève à cette transition-là au niveau économique?
Mais déjà, je dois dire que ça reste un secteur absolument incontournable. Quand on parle de 7,7 % de la taille de l'économie, c'est la question pétrolière et gazière, ça reste très important. Les exportations à 25 %, donc ça reste un élément qui est central dans l'économie canadienne, à tout le moins albertaine. Maintenant, quand on regarde la dynamique future, hein, c'est-à-dire les investissements d'aujourd'hui dans le secteur, de se dire, bon, est-ce qu'il y a beaucoup d'investissements dans le secteur gazier, pétrolier? Bien, historiquement, il y en avait beaucoup plus auparavant. Donc, on a une réduction des investissements. Hein. En 2015, on avait des investissements d'environ 57 milliards de dollars. Puis en 2024, hein, à peu près 10 ans plus tard, on est rendu à 43 milliards. Donc, il y a une réduction des investissements dans le secteur. Et quand on prend ces investissements-là en construction, notamment pour les nouveaux projets, par rapport aux investissements en général dans la construction de nouveaux projets pour l'ensemble des secteurs de l'économie, en 2014, ça valait environ 40 %. Aujourd'hui, ça représente moins de 20 %. Donc, il y a une diminution dans l'investissement, mais il faut quand même se dire que ça reste un secteur qui est central et c'est un secteur également très productif. Autrement dit, une heure travaillée dans le secteur gazier et pétrolier a une valeur ajoutée de plusieurs centaines de dollars, ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'ensemble de l'économie quand on prend la moyenne de l'ensemble des secteurs de l'économie plutôt. Donc, comme c'est l'élément le plus productif de l'économie, le secteur gazier et pétrolier, ça ajoute énormément de richesses collectives, notamment à travers de bons emplois, mais pas que, parce qu'il y a des redevances également pétrolières et gazières au gouvernement. Donc, ça reste un secteur qui est absolument important. Et les gouvernements, dans cette transition-là, doivent s'en rappeler. Parce qu'il faut aussi dire que de l'autre côté, quand on regarde la transition énergétique qu'on entend, ça donne des lions électriques, ça donne des Daegu, ça donne des Northvolt. C'est un petit peu compliqué de se dire que ça, c'est vraiment l'avenir quand on a un secteur qui vaut des centaines de milliards de dollars à toute fin pratique.
Ouais. Hey Gabriel, avec ce que tu viens de nous expliquer, est-ce que le plan, qu'on ne connaît pas encore, mais il y a un plan, se tient, ce qui est viable, est-ce qu'il est assez pesant et puissant pour être une menace sans l'Alberta? Si on se fie juste à ce qu'on exporte de l'Ontario, du Québec, des autres provinces, sans l'Alberta, sans le pétrole, est-ce que ce plan-là tient?
Je pense que c'est la question en ce moment là qu'on se pose, d'abord parce qu'on n'a pas le plan, comme tu l'as bien dit. Donc,
faudrait bien le savoir.
Ça se tient, mais on va en juger par nous-mêmes. Mais c'est la grande question. Après ça, moi, ce que je me dis surtout, c'est ce plan-là, là, quel sera l'impact sur la vie quotidienne de ma vie, la vie des auditeurs, votre vie à vous, parce que, encore une fois, François Legault, pendant son entrevue, expliquait que c'est les Américains qui vont payer pour les tarifs, puis une minute après, disait, fait que nous, nos tarifs qu'on va mettre là, au Canada. Je me dis, bon, fait que là, dans le fond, nous, on va payer plus cher. Comment ça va nous affecter concrètement? Est-ce que notre bois d'œuvre va coûter plus cher? Est-ce que l'épicerie va coûter plus cher? Je commence à me poser des questions ici parce que, au final, après avoir vécu beaucoup d'inflation dans les dernières années, est-ce que ce plan-là, ça va simplement venir hausser le coût de la vie des Canadiens parce qu'il va y avoir une pression à la hausse sur les prix? Je me demande également, en fait, je me demande cette question-là. Évidemment, c'est pas une question qui est purement politique parce que je sais qu'il y a une question aussi de balance de la force, de ne pas vouloir avoir de l'air un petit peu faible, mais au final, est-ce qu'on se tire dans le pied en mettant un plan, je dirais pas inflationniste, mais quand même qui va tirer les prix à la hausse pour la population canadienne? Je pense qu'il va falloir voir cette réalité-là parce que je pense pas que les Canadiens veulent payer plus cher dans l'ensemble des secteurs de leur vie, donc ça va être un calcul à avoir très certainement du côté des premiers ministres provinciaux et fédéraux.
Question qui rejoint un petit peu celle que Reg vient de poser. Est-ce que c'est possible pour toutes les provinces du Canada de s'entendre sur un plan? Parce que c'est tellement un grand pays, chaque province a ses forces, a ses réalités. Là, on voit que présentement, le plan actuel qu'on ne connaît pas, c'est l'Alberta, que ça fait pas son affaire pendant tout. Est-ce que c'est possible dans un grand pays comme le Canada, avec plein de provinces qui ont plein de particularités, d'en arriver à un plan où tout le monde va être content?
C'est pas facile, parce qu'encore une fois, de quoi est constitué les exportations canadiennes? Ben, de plusieurs choses, mais l'énergie, c'est quand même, et le secteur gazier et pétrolier, c'est 25 % des exportations. Donc, on comprend que c'est un très, très gros morceau de l'exportation. Et quand on a des premiers ministres comme celui de j'ai juste le nom en anglais, là, mais Terre-Neuve-Labrador, pardonnez-moi, qui nous dit que l'énergie, c'est la reine pour le Canada, quand on joue aux échecs, là, ici, c'est un jeu d'échecs pour lui, puis il expliquait que ça, là, c'est le pion de la reine, là. Il faut l'utiliser. Puis de l'autre côté, on a une Danielle Smith qui dit, attendez un peu, là. Ça va peut-être vous affecter un petit peu, Terre-Neuve, mais nous autres, ça va nous faire complètement mal. Là, vous vous rappelez du ratio d'à peu près 60 fois plus élevé, voire 70 fois plus élevé en exportation gazière et pétrolière que de l'électricité du Québec. Donc, quand on regarde ça, on se dit, ben, c'est sûr que la province qui produit du pétrole, et du gaz ne sera pas contente, puis il va pas se dire, regarde, moi, je coupe ça, puis j'en perds des milliers de jobs, puis essentiellement, là, l'économie, le dynamisme économique chute, là, à toute fin pratique, parce que c'est le gros marché pour le pétrole et le gaz albertain, si on exclut les autres provinces canadiennes, bien entendu. Donc, ça va être extrêmement difficile d'avoir un consensus, notamment sur l'énergie. J'ai peine à voir comment ce sera possible. Et puis, faut pas se surprendre également que Danielle Smith, elle veut aller rencontrer directement Donald Trump, comme elle l'a fait tout récemment, parce qu'elle veut s'assurer que l'énergie soit pas touchée, parce que ce serait assez catastrophique quand même pour sa province.
Gabriel, en terminant, les investissements sont réduits au Canada en matière d'exploitation du pétrole. Elles sont augmentées aux États-Unis. Est-ce que Donald Trump a raison de dire on peut se passer du pétrole canadien aux États-Unis?
Je pense que ça va être très difficile parce que c'est beaucoup de pétrole canadien qui est envoyé. C'est très intégré avec les raffineries. Et le prix du pétrole canadien est plus bas aussi que le pétrole américain. Il faut le rappeler, certes, il y a une question du fait que le pétrole canadien est plus lourd, donc plus de raffinage nécessaire, mais il n'en reste pas moins que les Américains ont quand même un rabais sur le pétrole canadien parce qu'on n'a pas beaucoup de débouchés au Canada, essentiellement. Comme on a décidé de freiner, en fait, je dirais plutôt, le cadre réglementaire était pas bon, il est encore pas très bon pour construire de grands projets d'infrastructure comme des pipelines, ce qui fait en sorte que, ben, on est un petit peu pris à la gorge, on est obligé, en quelque sorte, de l'envoyer aux États-Unis. Donc, les États-Unis, sachant cette dynamique-là, vont acheter notre pétrole à rabais. Et ça, mais ça, c'est sûr que ça s'inscrit dans les coûts américains des raffineries de se dire, regarde, moi, mon pétrole, je peux l'acheter à, je sais pas moi, 60$, ce qui est 10$, 12$ en dessous du prix du pétrole américain. Ben, pour leur revenu, il va y avoir une différence. Si on dit un instant, là, vous allez le payer au prix maintenant de l'ensemble du pétrole américain quand vous aviez essentiellement un bon deal avec le Canada. Puis nous, du côté du Canada, je pense qu'il y avait une réflexion qui aurait dû se faire il y a des années, là, mais c'est-à-dire notre cadre réglementaire freine les projets, ça prend des années, c'est beaucoup trop long par rapport à ailleurs dans le monde pour construire des grands projets pipeliniers et des terminales pour envoyer notre gaz naturel liquéfié partout dans le monde. Je pense que là, c'est le temps d'avoir cette réflexion-là. Même si le feu est pris dans la maison, c'est pas une bonne affaire là avec les tarifs douaniers, mais il faut avoir cette réflexion-là pour s'assurer que l'avenir énergétique du Canada ne soit pas compromis.
C'est bien dit, tellement intéressant. Gabriel Giguère est analyste politique pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, comme toujours, très apprécié ton temps. Merci pour l'analyse ce matin.
Bien, merci à vous autres.
Salut Gabriel, merci beaucoup.
Bye bye.
Côté économique de toute cette histoire-là, là, la grande annonce hier que l'Alberta n'embarque pas dans cette coalition des provinces là, pour les menaces, voire plans qu'on ne connaît pas, ou négociations avec Trump.
Oui, puis moi, je retiens que l'Alberta, c'est près de 150 milliards qui est en jeu dans ces négociations-là. Donc, voilà pourquoi Danielle Smith a pris l'avion et est allé rencontrer Donald Trump. La question de Max est très pertinente. Ça va être énormément difficile de faire consensus compte tenu, justement, des réalités différentes. Mais quand on parle que développer sa richesse, développer son économie, ça rapporte, en Alberta, sont environ 10 points de taux d'imposition plus bas qu'au Québec, justement à cause de l'exploitation du pétrole. Donc, si on perd ça, il va falloir nécessairement venir plus imposer nos citoyens. Puis ça, Danielle Smith le sait trop bien. Ça va être la fin pour elle au niveau politique.
Fait que ça, c'était le côté économique de cette histoire-là, là, de la coalition des premiers ministres des différentes provinces du Canada sans l'Alberta, sans le pétrole de l'Alberta dans cette menace de taxation là, en ce qui a trait aux négociations avec Donald Trump. Côté politique maintenant de la chose, qu'est-ce que ça veut dire, comment on va de l'avant avec ce plan-là qu'on ne connaît pas, mais il y a un plan apparemment, un plan de match sur la table. On va en jaser après la pause avec Marc-André Leclerc, qui est chroniqueur au Journal de Québec et spécialiste en affaires publiques et en communication stratégique. Bridge.